Les harangueurs provençaux. Il parut, comme on sait, sous le règne de Louis XIV, un ambassadeur perse en France. Ce prince aimait à attirer à sa cour des étrangers de toutes les nations qui pussent admirer sa grandeur, et rapporter dans leur pays quelques étincelles des rayons de la gloire dont il couvrait les deux bouts de la terre. L'ambassadeur, en passant à Marseille, y fut reçu magnifiquement. Sur cela, messieurs les magistrats du Parlement d'Aix désirèrent, quand il arriverait chez eux, de ne pas se trouver en reste avec une ville au-dessus de laquelle ils placent la leur avec assez peu de raison. En conséquence, le premier de tous les projets fut de complimenter le persan. Le haranguer en provençal n'eût pas été difficile, mais l'ambassadeur n'y eut rien compris. Cette difficulté arrêta longtemps. La cour délibéra. Il lui faut peu de choses pour délibérer. Un procès de paysan, un train à la comédie, et principalement une affaire de catin, tout cela sont de grands objets pour ces magistrats oisifs. Depuis qu'il ne leur est plus possible de porter encore, comme sous François Ier, le fer et la flamme dans la province, et de l'arroser des flots du sang des malheureux peuples qui l'habitent. On délibéra donc, mais comment parvenir à faire traduire cette harangue? On avait beau délibérer, on n'en trouvait pas le moyen. Se pouvait-il que, dans une société de marchands de thon, accidentellement vêtus d'une jaquette noire, dont pas un seul ne sait seulement le français, il se rencontra un confrère qui parla le persan. La harangue était pourtant faite. Trois avocats, célèbres, l'avaient travaillée 6 semaines. Enfin on découvrit, soit dans le troupeau, soit dans la ville, un matelot qui avait été longtemps dans le Levant, et qui parlait persan presque aussi bien que son patois. On l'instruit. Il accepte le rôle. Il apprend la harangue et la traduit avec facilité. Le jour venu, on le revêt d'une vieille casaque de premier président. On lui prête la plus ample perruque du parquet, et suivi de toute la bande magistrale, il s'avance vers l'ambassadeur. On était convenu mutuellement de ses rôles, et le harangueur avait surtout bien recommandé à ceux qui le suivaient, de ne le jamais perdre de vue et de faire absolument tout ce qu'on lui verrait faire. L'ambassadeur s'arrête au milieu du cours où il était arrangé que l'on le rencontrerait. Le matelot s'incline et, peu accoutumé à voir une si belle perruque sur le crâne de la courbette, il fait voler la tignasse aux pieds de son Excellence. Messieurs les magistrats, qui avaient promis d'imiter, mettent à l'instant leurs perruques bas et courbent avec bassesse vers le persan leur crâne pelé et peut-être même un peu galeux. Le matelot, sans s'étonner, ramasse ses cheveux, se recoiffe et entonne le compliment. Il s'exprimait si bien que l'ambassadeur le crut de son pays. Cette idée le mit en colère. Malheureux, s'écria-t-il en portant la main sur son sable, tu ne parlerais pas ainsi ma langue si tu n'étais un renégat de Mahomet. Il faut que je te punisse de ta faute. Il faut que tu le payes aussitôt de ta tête. Le pauvre matelot avait beau se défendre, on ne l'écoutait point. Il gesticulait, il jurait. Et pas un seul de ses mouvements n'était perdu. Tous se répétaient à l'instant, avec énergie, par la troupe aéropagite dont il était suivi. Enfin, ne sachant plus comment se tirer d'affaire, il imagine une preuve sans réplique. C'est de déboutonner sa culotte et de mettre aux yeux de l'ambassadeur la preuve constante que de ses jours il avait été circoncis. Ce nouveau geste est un instant imité. Et voilà tout d'un coup 40 ou 50 magistrats provençaux, la braillette à bas et le prépuce en main, prouvant ainsi que le matelot, qu'il n'en ait aucun d'eux, qui ne soit chrétien comme saint Christophe. L'on imagine aisément, si les dames qui considéraient la cérémonie de leur fenêtre durent rire d'une telle pantomime. Enfin, le ministre, convaincu par des raisons si peu équivoques, voyant bien que son harangueur n'était pas coupable, et que du reste, il était dans une ville de pantalons, passe outre en levant les épaules, et se disant sans doute intérieurement « Je ne m'étonne pas que ces gens-là aient toujours un échafaud dressé. Le rigorisme accompagnant toujours l'ineptie doit être le partage de ces animaux-là. » On voulut faire un tableau de cette nouvelle manière de dire son catéchisme. Il avait déjà été dessiné, d'après nature, par un jeune peintre. Mais la cour bannit l'artiste de la province et condamna le dessin au feu, sans se douter qu'ils se faisaient brûler eux-mêmes, puisque leur portrait était sur le dessin. Nous voulons bien être des imbéciles, dirent ces graves magistrats. Ne le voulussions-nous même pas? Il y a assez longtemps que nous le prouvons à toute la France. Mais nous ne voulons pas qu'un tableau la prenne à la postérité. Elle oubliera cette platitude. Elle ne se souviendra plus que de Mérindol et de Cabrières. Et il vaut bien mieux pour l'honneur du corps être des meurtriers que des ânes.